écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Bonjour et bienvenue sur Radio Osmose dans la couleur des planches. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bond dans le passé avec Chat Noir, Souris Blanche d'Olivier Maille. Avec comme comédien Jérôde Aieva Derman, Yves Letzester, Virgile M. Fouillou, Florent Chenet et Nicolas Soulier à 19h15 au théâtre Buffon.
19h55.
Ah oui, parce que moi je suis venue à 18h15. Voilà. Donc parfois vous jouez à 18h15.
Ouais, oui, on joue deux fois le lundi.
Deux fois le lundi.
Et on joue pas le mardi.
Et vous jouez pas le mardi. Donc mardi relâche. Aujourd'hui, donc j'accueille Olivier Maille et Virgile M. Fouillou. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Dans ce spectacle, on retourne dans une époque atroce qui a marqué l'histoire de l'humanité. On se retrouve en 1863 en Louisiane pendant la guerre de sécession au milieu d'une plantation de coton qui est tenue par deux frères, Lucien et Pierre. Ce dernier a plus d'attrait pour la musique que pour le business de sa plantation. Une musique qui va lui permettre de se rapprocher de trois esclaves. Olivier Maille, on vous connaît dans des registres plus comiques d'habitude.
Oui. Non, oui, ouais, j'avais envie d'essayer autre chose. Au bout de 7 ans d'Avignon, j'avais envie d'essayer autre chose, de donner des pièces qui ont un peu de... Je ne dis pas que les comédies n'ont pas de sens, mais le seul sens de la comédie, généralement, c'est pour faire rire. Et là, j'avais envie de donner... essayer d'écrire autre chose, en fait. Voilà. Non, j'ai pas eu envie d'écrire particulièrement sur ce sujet-là au départ.
Comment vous en êtes arrivé là, justement ?
Il y a eu deux déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est Swan, c'est mon meilleur ami qui, d'ailleurs, fait notre régie Lumière. Qui m'a dit, ah, tu devrais écrire un truc avec de la musique et tout, changer un petit peu de registre, essayer autre chose et tout. Je fais, ouais, pourquoi pas. Et puis, je sais pas, quelques jours après, j'ai reçu un CV pour une comédie que je montais, et j'ai reçu un CV, et c'est le CV d'un noir. Et je me suis dit, bah tiens, non, je cherche pas un rôle de black, en fait. Voilà. Et alors que ça pouvait être un chinois, ça aurait été pareil. Hein. Donc, ça veut dire que je me suis posé la question de savoir d'où ça venait un peu ce préjugé, qui n'est pas un préjugé raciste, mais qui est un préjugé un peu de, on va dire, d'héritage de petits-fils de colons, en fait. Voilà. Et donc, je me suis interrogé, parce que ça m'a un peu heurté d'avoir pensé ça pendant une seconde. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai Swan, dont je vous parlais, qui est antillais aussi. Donc, on a commencé à se dire, tiens, ce sujet-là pourrait être intéressant. Donc, je me suis documenté dessus. Et puis, ce que j'ai trouvé était assez incroyable. Notamment un livre qui s'appelle « À bord du négrier ». Encore une fois, l'esclavage a été aboli en 1864 aux États-Unis, donc c'est quand même juste derrière nous. Quoi. Et ça a duré entre 400 et 500 ans. C'est la plus grande diaspora du monde, le plus grand massacre du monde. Donc voilà, ça a été, c'était un déclencheur pour moi. Quoi. Ah, après, il ne me restait plus qu'à essayer d'écrire une histoire. Et pour terminer, je n'avais pas envie d'écrire une histoire culpabilisante, puisque ça a déjà été fait.
Oui.
Mais plutôt une histoire en disant... En essayant de chercher les points de vue, parce que je suis ancien avocat, donc de se dire, de se dire où est-ce que la vérité elle est compliquée à trouver. Donc j'ai pas essayé de la chercher, j'ai juste essayé de décrire comme je le pensais moi à l'époque, en m'ayant documenté, comment ça pouvait être, comment les relations pouvaient être compliquées à cette époque-là avec une machine qui vous broie en fait. Voilà.
Alors Virgile M. Fouillou, vous jouez dans cette pièce. Mm-hmm. Ce qui est étonnant, c'est on a l'impression en fait que les esclaves sont conscients de leurs conditions. Ils savent quelque part que ça ne va pas forcément changer. Il y a une sorte d'acceptation de la fatalité.
Oui, non, en fait, il y a trois esclaves, deux hommes et une femme.
Pour Aurélien, en tout cas.
C'est surtout pour Émilien.
Émilien, pardon.
Pour le personnage d'Antoine, personnage que j'incarne, lui, c'est le seul parmi les trois esclaves qui a connu l'Afrique. Donc, il est conscient de la liberté qu'il peut obtenir. Et lui, il est vraiment dans une optique de rébellion. Donc il n'est pas forcément dans l'acceptation, il n'y est pas du tout d'ailleurs, et je ne vais pas non plus spoiler la pièce, mais il est vraiment dans une quête de révolte pour, entre guillemets, briser ses chaînes. Donc il est très conscient de la condition, beaucoup plus que son personnage d'Emilien, il est très conscient de sa condition, et c'est ce qui rend ce personnage assez fort en couleur.
Par rapport à la musique, vous en parliez, Olivier Maille, il y a un grand rôle de la musique dans cette pièce, mais aussi à l'époque. Donc c'était important pour vous de remettre ça au centre du spectacle.
Ouais, bah, de toute façon, c'est impossible de dissocier l'esclavagisme et la musique, puisque la création du blues vient des esclaves. autant quand ils étaient dans les champs de coton que quand on a commencé à les libérer, qu'ils erraient dans les rues, parce que c'était, qu'on les a libérés, c'est bien, mais ils n'avaient aucune attache, aucune possibilité de résister. En fait, finalement, on se rend compte qu'ils étaient, même quand ils étaient libérés au départ, ils étaient laissés dans les mêmes conditions, en fait. On a changé le nom, mais c'était la même chose. Et donc voilà, la musique, en fait, permettait une sorte de déclencheur de dramaturgique pour les personnages. Et justement, la musique, ça va être traité différemment en fonction de qui on s'adresse. Et évidemment, c'est indissociable. Pour ça, j'ai un créateur musical, il s'appelle Jérôme Gallo. Donc, il m'a créé la musique vraiment intégralement. Donc voilà, en vraiment gardant l'esprit du blues, pas gospel, hein, c'est plutôt vraiment blues. Et en fait, comme la blues, c'est une chanson de parler, c'est pour ça que ce sont tous des comédiens chanteurs et pas des chanteurs qui jouent, en fait.
Il y a un travail aussi au niveau de la lumière.
Ouais, il y a Jérémy Rioux qui nous a fait un super travail lumière. On a ramené des spots en plus pour vraiment créer cet univers, parce que comme c'est une partie de l'histoire, enfin tout est une partie de l'histoire, les accessoires, les costumes, le décor, la musique. Je pense que ce qu'on a réussi ensemble dans cette pièce, c'est que c'est un projet choral collectif, et je pense que les gens le sentent inconsciemment quand ils sortent aussi. C'est vraiment un travail de groupe, en fait. Le groupe est important. C'est le groupe, et comme on ne parle pas d'esclavagisme, en fait, on parle d'humanisme. On aurait pu situer cette pièce ailleurs, dans un autre temps, on aurait eu les mêmes problématiques. C'est vraiment quand on a des trucs antagonistes. Et j'ai quand même mis, parce qu'on est le matin, on a deux voix très graves avec Virgile, mais il y a quand même un peu de légèreté aussi dans la pièce, il y a de l'humour, comme je viens quand même de ce milieu-là, et je pense vraiment que plus il y a du drame, plus on doit avoir de l'humour. Donc je fais partie de cette tranche, entre guillemets, d'humoristes ou d'auteurs qui disent que plus c'est grave, plus il faut en rire.
Et comment vous avez appréhendé, en tant que comédien, la gestion du rapport maître-esclave, sachant que vous voulez, comme vous le disiez, parler avant tout d'humanité ?
Déjà pour commencer, quand Olivier Maille m'a contacté pour la pièce, j'étais un peu sceptique. Parce que c'est vrai qu'un blanc qui écrit une histoire sur l'esclavage, je me dis, qu'est-ce qu'il va raconter ? Est-ce qu'il va mettre plus en avant le côté esclavagiste ? Est-ce qu'on va rentrer dans la caricature de l'esclave qui se fait fouetter constamment par le blanc ? Ça, on l'a vu dans des films, voilà. Et j'étais agréablement surpris parce que je connaissais un petit peu sa réputation d'auteur de comédie. Alors je me suis dit, comment un auteur blanc spécialisé dans la comédie, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire sur un sujet aussi grave ? Et j'étais agréablement surpris par la qualité de l'écriture, parce que Olivier Maille a eu l'intelligence de ne pas rentrer dans la caricature, dans le cliché. Il a écrit 5 beaux personnages qui sont très difficiles à défendre. C'est la raison pour laquelle le projet est très intéressant et très fort au niveau de la personnalité. Chaque personnage a un rôle de composition, a quelque chose à défendre. Et comme vient de le dire Olivier, ce que j'ai aimé dans la pièce, c'est que c'est pas une pièce, on peut pas dire que c'est une pièce sur l'esclavage. C'est pas comme ça que moi je l'entends, c'est plutôt une pièce qui se déroule dans une époque où il y avait l'esclavage, qui forcément se déroule dans un champ de coton. 2 hommes qui la tiennent, 2 blancs, face à 3 esclaves. Bon, forcément, on peut pas éviter certaines choses qui étaient de l'époque, comme la violence, comme la colère, la tristesse. Et ce qui fait aussi la beauté du texte, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Et nous, on est très très contents, parce que, enfin, surtout de la réaction du public, ouais. C'est que les gens sortent de la salle en ayant subi un ascenseur émotionnel. Donc c'est une pièce où on passe du rire à la colère, à la tristesse, à la joie. Et c'est là où je pense qu'on a réussi
le pari. Alors vous le disiez, évidemment, donc c'est avant tout une pièce...
On n'a pas du tout répondu à ta question, quasiment. À chaque fois que tu me poses une question, on ne répond pas à la question.
Il ne fallait pas m'inviter.
Ah, non, bon. Mais moi aussi, c'est drôle. On parle de ce qu'on a envie, c'est drôle.
Par rapport à, oui. à la gestion du rapport maître-esclave, mais vous l'avez dit, c'est avant tout une pièce sur l'humanité. On parle quand même de la traite négrière malgré tout. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'esclavage, ça existe toujours. On appelle ça donc l'esclavage moderne. Que ça soit traditionnel dans des pays, par exemple, comme le Soudan, où on peut être asservi dès la naissance. Je vous en prie, l'esclavage sexuel ou le travail forcé. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, en fait ? Ça évolue quoi qu'il arrive, mais c'est toujours là, quoi.
Déjà, il y a eu, les gens ont oublié, mais il n'y a pas eu que la traite négrière par les Américains. Il y a eu aussi la traite faite dans les pays d'Orient. Et là, c'est pire, ils pouvaient faire ce qu'à 10 000 km à pied. Mais il y a une sorte de truc qui est bizarre. Quand j'ai fait mes recherches, en fait, il y a très peu d'articles sur cette traite-là et beaucoup d'articles sur la traite négrière américaine qui a été évidemment beaucoup plus, on va dire, médiatisée. C'est un bien grand mot, mais l'esclavage, de toute façon, l'esclavage, ça veut dire le pouvoir. Du moment qu'il y a du pouvoir, il y a l'esclavagisme. Après, c'est à quel degré on met le curseur. Mais par exemple, le racisme anti-noir des Américains était d'abord un racisme économique. C'est-à-dire que puisqu'on considérait que le noir était inférieur, eh ben, on allait le mettre en esclavage. Ça n'a pas été un massacre organisé, en fait. Mais les conditions de l'esclavage, les conditions dans les bateaux, etc., ça fait que, de fait, c'est devenu un massacre à tel point qu'on n'a pas les chiffres. C'est impossible d'avoir des chiffres, en fait. Personne aucun auteur n'ose donner des chiffres. Donc, évidemment, pour terminer là-dessus, oui, c'est, de toute façon, ça, je ne vais pas faire pessimiste, mais à partir du moment où quelqu'un utilise un pouvoir, voilà, on le voit aujourd'hui, on le voit tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est l'humanité, c'est quand j'ai un pouvoir, je ne l'utilise pas contre l'autre, mais pour l'autre. Voilà, mais c'est compliqué, encore une fois, parce qu'il y a des analyses sociologiques qui démontrent qu'on est tous là aujourd'hui dans un truc universel en disant « Ah, moi, je ne me serais pas comporté comme ça ». Et en fait, les analyses sociologiques de Stanley Morgan, notamment, qui ont été en 1963, alors pour justement terminer cette parenthèse-là, c'est un sociologue juif qui s'est dit, après la Seconde Guerre mondiale, comment ça se fait que les Allemands ont pu concourir ? Parce que ce qui est grave, ce n'est pas d'avoir mis Hitler au pouvoir, c'est d'avoir suivi Hitler dans sa quête de massacre absolu, quoi. Et donc il a fait une étude et en fait on s'est rendu compte, pour aller de façon très courte, les psychiatres pensaient qu'il y aurait 0,3% des gens qui suivraient cette expérience jusqu'au bout, et en fait il y a 60% des gens qui ont suivi parce qu'ils étaient soumis à une autorité qui pensait être légitime. Donc 60%, oui, et ça a été de nouveau une expérience sociologique qui a été faite il y a 10 ans, et ça a de nouveau été renouvelé, c'est-à-dire que c'est un truc sociologique. Donc c'est-à-dire comment on se récomporte à l'époque, nous on est avec notre truc universel, on est dans un nouveau hôtel, on est bien, on est tranquillement dans notre divan en disant « ouais, moi je me serais pas comporté comme ça ».
Et honnêtement,
moi j'en sais rien quand je me serais comporté. C'est peut-être sûrement pour ça que j'ai écrit cette pièce, parce que je suis un peu choqué de me dire comment j'aurais pu... voilà, donc évidemment, pour terminer, l'esclavage, oui, moderne, bien sûr, il existera toujours tant qu'il y aura des puissances financières, des puissances de qui pourront soumettre quelqu'un à l'autre, et bah, ça existera toujours, parce que c'est facile d'être, on le fait tous, à un moment donné, quand on a un peu le pouvoir, on en a tous un petit peu abusé, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'humain, on est complexe.
Et on vit dans un monde des puissants.
Exactement.
Donc nous vous donnons rendez-vous pour Chat Noir, Souris Blanche à 19h55 au Théâtre Buffon.
Deux fois le lundi, 18h15, voilà. Et 19h55.
Très bien, bah, écoutez,
et pas le mardi, Savannah.
Pas le mardi, non. On précise, pas le mardi. Donc rendez-vous au Théâtre Buffon et nous vous souhaitons un agréable festival.
Merci beaucoup.
Merci.